à Boulevard 102.1.
Émission On en jase, ton émission du midi de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 102 avec Jeff Fortin et Pascal CV. À la météo, bien, je vous ferai pas de cachette, c'est une semaine froide, c'est moins 14 aujourd'hui, moins 24 présentement avec le facteur de refroidissement éolien. Ça sera moins 21 pour cette nuit, moins 13 degrés généralement ensoleillé pour demain et moins 14 ensoleillé pour jeudi, donc une vraie semaine du mois de janvier. Pascal, la juge les a appelés les deux fous en cavale en parlant des deux jeunes qui ont lâchement battu, poignardé puis lancé de la passerelle de la Marina Saint-Roch en avril 2003, une personne itinérante. Et là, il y en a un des deux qui a reçu sa peine aujourd'hui.
On parle de Zachary Jenkins Verrett et son complice Nathan Fréchette. Donc, effectivement, ils ont été qualifiés de deux fous en cavale. Bon, c'est vraiment une histoire sordide qui avait retenu l'attention. On se dit, voyons, comment est-ce que quelqu'un peut décider de s'en prendre à un itinérant qui dort à la Marina de Saint-Roch en plein mois d'avril 2024, quand il fait froid? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en vient là? Bien, clairement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en vient là, c'est qu'on est lâche et qu'on bat lâchement, justement, cette personne en situation d'itinérance. C'est un peu toute l'histoire qui a été racontée par la juge et qui a été tranchée en ce qui concerne un des individus de Québec. 19 ans de pénitencier pour la mort d'un itinérant que son complice et lui ont écopé. Donc, c'est Zachary Jenkins Verrett qui a vu, en fait, sa condamnation aujourd'hui. Il avait déjà plaidé coupable en septembre dernier à des accusations d'homicide involontaire pour la mort de Gilles Gosselin, je veux le nommer quand même, et voie de fait grave, ensuite vol qualifié sur une autre victime prise à partie le même soir. Son complice, Nathan Fréchette, lui aussi avait reconnu sa culpabilité dans l'aventure commune. Il a été condamné à une peine de 13 ans d'emprisonnement. Donc, c'est vraiment une cavale violente, gratuite des deux jeunes hommes. Ils étaient fortement intoxiqués et ils s'en sont pris à un premier itinérant, le premier qu'ils ont vu finalement violemment battu. Et ils l'ont lancé, comme tu l'as dit, dans les eaux froides de la rivière Saint-Charles.
À souhaiter que leur année derrière les barreaux leur permette de se remettre bien en selle mentalement.
Plusieurs disent que ça sert à rien. Plusieurs souhaitent s'en débarrasser. Mais il y en a un qui a trouvé... quoi faire avec le Colisée de Québec? Il faut savoir que la nuit dernière, les policiers de Québec sont intervenus. À 20h50, on a appelé les policiers pour introduction par effraction dans le Colisée de Québec, sur le boulevard Wilfrid Hamel. Écoute, si je lis entre les lignes, c'est plutôt quelqu'un qui voulait aller voir à l'intérieur, mais c'est un peu cocasse ce qu'il a décidé de faire parce que, bon, les policiers sont arrivés sur les lieux, on a cherché l'individu, on trouve personne, on a même un maître chien qui fait le tour du Colisée Pepsi. Aucun suspect qui a été arrêté. On n'a rien volé dans le Colisée. Ce qu'on pense, par exemple, c'est que le bris pour l'introduction par effraction, c'était pour circuler à moto à l'intérieur du bâtiment.
Peut-être qu'il payé un trip.
Peut-être qu'il serait entré aussi à bord de son véhicule. Il y a plein de choses qu'on est en train de mettre sur la liste des hypothèses, mais ce qu'on pense, c'est que le suspect pourrait peut-être avoir même quitté en moto. C'était vraiment un trip de quelqu'un qui souhaitait entrer dans le Colisée Pepsi après tant d'années où ça ne sert plus à rien.
Ben exactement. Bon, bien, que le bien lui en fasse et j'espère qu'il a eu du plaisir. Mais ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne brisez
ça
pas.
Ça reste bris et entrer par effraction.
Exactement. Ça reste criminel, les amis. Ne faites pas de bruit de ce style. Depuis la semaine dernière, on parle, et avec raison, du discours enflammé de Mark Carney à Davos, où il a appelé les moyennes puissances à s'unir pour combattre les puissances économiques telles les États-Unis qui, à coup de tarifs, tentent justement de déstabiliser les moyennes puissances. Et pour en parler avec nous de cette semaine folle et surtout des impacts qu'il y a, parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, les États-Unis sont sortis pour dire « Haha, Carney s'est excusé », puis Carney sort pour dire « Non, 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 je me suis pas excusé, je garde le cap sur mon discours à Davos ». On a le président directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et analyste économique, Pierre Graff, avec nous en studio. Pierre, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Jeff, bonjour Pascal.
Pierre, est-ce que Mark Carney est allé trop vite avec ce discours-là et avec l'entente qu'il a tissée avec la Chine?
Ben, écoute, on voit là, le discours était vraiment extraordinaire là, qu'il a prononcé évidemment à Davos. Puis là, la poussière est retombée. Puis on voit qu'il y a vraiment deux penchants qu'il faut analyser en ce moment. C'est vraiment au niveau diplomatique puis au niveau économique. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce discours-là? Puis, il avait été peut-être un peu vite, c'est sûr, parce qu'il a parlé de nouvel ordre mondial. Ça fait beaucoup parler, d'ailleurs. Il y a beaucoup de théories qui circulent là-dessus. Ce qu'on a vu, en revanche, c'est que, par exemple, on voit que les grands dirigeants de la planète n'ont pas nécessairement la même vision que lui. Ils n'ont pas une vision aussi binaire d'on est passé à un ancien monde, à un nouveau monde. On est peut-être en transition. Trump va quitter dans 3 ans potentiellement aussi. Donc, il faudrait peut-être mettre un peu d'eau dans notre vin. Ursula von der Leyen a dit qu'elle n'avait pas du tout la même vision, justement, des relations internationales et du monde. De l'autre côté, il y a le dirigeant de l'OTAN, donc l'organisation militaire nord-atlantique, qui a dit que ben, l'Europe et le Canada n'avaient pas fait leur job aussi dans les dernières années. Donc, c'est comme s'il y avait peut-être... pas nécessairement la même vision vraiment des dynamiques internationales. Et aujourd'hui, ben, c'est problématique parce que lorsque tu veux justement t'attaquer à la plus grande puissance mondiale, ben, il est peut-être bon quand même de signer des ententes avant peut-être de sortir un grand discours qui pourrait amener justement des représailles puis un marasme économique assez important.
En même temps, je trouve ça tellement intéressant d'entendre la différence entre bon, un positionnement économique, un positionnement politique. Dans ce cas-ci, ça semble extrêmement complexe de jumeler les deux, chose qu'on est capable de faire normalement quand on fait face à quelqu'un qui va de l'avant avec peut-être des valeurs un peu plus occidentales, une vision économique qui a été longtemps partagée, du moins du Canada et des États-Unis. Là, en ce moment, on essaie un peu de se défaire de Donald Trump, mais quand on essaie de le faire, on se fait aussi mitrailler par Donald Trump. Alors, c'est quoi la solution dans ce cas-ci? Parce que finalement, le discours de Mark Carney, c'était de se tenir debout, mais il est un peu attaché malgré tout à Donald Trump. Il ne veut pas paraître faible. C'est complexe.
Bien, c'est complexe. Puis en politique, on dit toujours que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Puis même si Mark Carney a certainement raison sur beaucoup de points, bien, il y a des choses que parfois on ne doit pas dire. Puis là, ça a créé vraiment des représailles. Alors, les Américains ont un peu exagéré en disant que le Canada n'allait pas de l'avant avec leur traité avec la Chine. Ce n'est pas un traité de libre-échange, c'était juste une entente économique pour faire baisser quelques tarifs, même si évidemment ça impactait les États-Unis. Puis aussi, l'autre chose, c'est que bien, tant qu'organiser une fronde aussi économique, là, faut aussi voir le temps que ça va prendre pour être capable de créer des résultats pour compenser le fait de se détacher. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir une autonomie stratégique, mais ça ne fonctionne pas vraiment en cas d'interdépendance économique.
Alors, c'est là où tu dis où on est peut-être un peu allé trop vite parce que oui, on avait une entente, du moins discutée, mais le temps de la mettre en place puis de voir les fruits de cette entente-là, c'est beaucoup plus long qu'espéré. Et donc, on allait avoir plus de difficulté à se relever de ça.
Et exact. Puis regarde ce qui se passe actuellement. Là. Oui, il y a une volonté de diversifier les marchés, mais diversifier des marchés, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Là. Ça prend beaucoup de temps. On voit que l'Europe a des enjeux. On voit que la Chine aussi...
On est en train d'établir là, le macro de tout ça, là, mais on n'est pas encore rendu dans l'opération. Là.
C'est ça. Mais de notre côté, il y a des efforts aussi pour être capable éventuellement aussi de développer de nouvelles industries. Mais il y a un concept en économie qui est la réallocation des ressources. Lorsqu'on n'investit plus dans les choses pour lesquelles on investissait historiquement pour créer de la productivité marginale, pour créer de la croissance, et qu'on réalloue ces sommes-là, ces investissements dans une part de l'économie, à court terme, ça va booster l'économie parce qu'on est capable justement de faire fonctionner des fournisseurs, des services, etc. Le problème, c'est que ces industries-là, elles n'ont pas encore de clients. Et aussi, ben, elles n'ont pas encore rien produit. Donc, si jamais tu n'arrives pas à compenser la perte d'un bord avec un gain suffisant de l'autre bord, ben, tu peux avoir vraiment un problème. Puis je rappelle quand même, parce que c'est la statistique la plus importante, 3/4 de nos exportations vont aux États-Unis, d'accord?
Mm-hmm.
Et il faut penser que c'est 30% de notre économie, les exportations. Donc là, si tu fais un calcul rapide, là, ça veut dire qu'on perd à peu près 25% de notre économie si jamais on devait vraiment avoir des tarifs à 100% avec la renégociation de la CEOM. Puis ce qui se passe malheureusement, c'est qu'on a l'impression qu'avec certaines prises de position, ben, peut-être on s'est un peu affaibli par rapport justement aux renégociations qui s'en viennent pour l'accord Canada-États-Unis-Mexique.
On parle avec Pierre Graff qui est analyste économique. On parle chemin de cette dernière semaine folle en économie. Discours de Mark Carney à Davos, menace de 100% de tarifs de la part de Donald Trump. Pierre, quel pan de l'économie va souffrir, peu importe ce qui arrive, peu importe la renégociation de l'ACEUM? Tu sais, je pense au bois d'œuvre. Est-ce que le bois d'œuvre est une industrie qui, malheureusement, va souffrir coûte que coûte de ce qui se passe avec les États-Unis?
C'est sûr, puis c'est déjà le cas. Là. Actuellement, il y a beaucoup de licenciements dans le domaine. J'ai eu la chance d'échanger avec deux dirigeants, justement, de forestières récemment. Puis c'est vraiment une période extrêmement difficile. Alors, c'est sûr que, puis c'est pas un mauvais jeu de mots, là, mais c'est vraiment une industrie en dents de scie, là, l'industrie forestière.
En effet.
C'est des hauts, c'est des bas qui peuvent être très bas. Puis en ce moment, ça fait extrêmement mal. Donc, c'est sûr qu'on l'a vu. D'ailleurs, il y a des moulins qui ferment, il y a des scieries qui ferment. Puis ça, c'est vraiment, vraiment problématique parce que c'est des très bonnes jobs en région. Puis malheureusement, si on n'arrive pas à se débarrasser des tarifs dans la renégociation de la CEUM prochainement, ça va être extrêmement problématique. Puis on le voit d'ailleurs aussi dans l'acier, il y a quand même certains enjeux aussi en ce moment. Donc il faudra espérer. Je ne sais pas si Mark Carney en fait espère que les marchés en fait corrigent les positions de Trump, parce que historiquement il a plus réagi lorsque le marché tombait qu'autre chose. Mais c'est sûr que il va falloir une entente, parce que on est en train de détruire des pans d'activité, des secteurs d'activité avec ces tarifs-là.
Dans lesquels on était connus aussi, puis dans lesquels surtout on avait une expertise, puis qui amenait énormément d'argent dans les coffres canadiens. Mais il y a des gens qui disaient au départ, ben ça nous touche pas énormément. Là, de ce qu'on comprend, c'est que plus le temps passe, plus ça nous touche, plus ça nous affecte, plus ça crée des problématiques. Il y a des entrepreneurs qui nous ont confié, pas de façon publique, on ne peut pas nommer les industries, on ne peut pas nommer les entreprises, avoir même choisi de rester au Canada, de ne pas avoir construit une usine aux États-Unis il y a quelques années et avoir regretté leur choix. Parce que l'imposition de tarifs comme ceux-là les a complètement anéantis dans les derniers mois, ou encore on fait beaucoup bouger leurs chiffres. Tandis que s'il y avait encore une usine aux États-Unis, ou s'il y avait choisi d'avoir une usine aux États-Unis dans les dernières années, il n'y aurait pas eu cet impact-là économique. Ça peut-tu changer dans la tête de nos entrepreneurs leur façon de voir les choses, même s'ils veulent être bons Canadiens?
Ça a déjà changé. Depuis quelques semaines, on voit énormément de cas d'entrepreneurs qui ont décidé d'ouvrir une usine aux États-Unis, d'investir là-bas. Puis les raisons sont simples. Oui, il y a les tarifs. C'est sûr, ça fait très mal. Mais deuxièmement, les Américains, le One Big Beautiful Bill Act fait que le taux d'imposition des entreprises a chuté drastiquement avec Trump. Donc, c'est beaucoup plus avantageux pour l'entreprise de dégager des bénéfices puis de les réinvestir aux États-Unis en ce moment. Puis, il faut penser que, alors oui, on n'est pas concurrentiel en termes fiscaux en ce moment au Canada, même si on a essayé dans le dernier budget fédéral, dans la dernière mise à jour économique, de faire quelque chose avec le nouveau programme d'amortissement accéléré. Par contre, ce qui se passe, c'est aussi qu'il y a eu beaucoup de politiques intérieures au Canada, au Québec, qui ajoutaient à l'imprévisibilité au lieu d'ajouter de la prévisibilité. Parce que ce qui compte pour les entrepreneurs, c'est d'avoir une vision claire, le plus clair possible pour prendre des décisions stratégiques. Puis les décisions stratégiques sont liées à de l'investissement. Et ça fait que malheureusement, comme il y avait moins de prévisibilité, ben, soit ils ont choisi d'aller aux États-Unis, puis on le voit qu'il y en a de plus en plus, soit ils ont décidé peut-être de ralentir, puis l'investissement d'ailleurs a chuté de plus de 3% l'année passée au Canada.
En terminant, est-ce que le fait que Donald Trump a imposé des tarifs et que sur le 200 milliards de dollars qu'il a récupéré avec ces tarifs-là, seulement 200 millions proviennent de l'extérieur, donc 1,8 milliard, c'est payé par les citoyens, les entreprises américaines, peuvent le faire reculer, peut nous donner un levier dans les négociations?
Malheureusement, je ne pense pas que Trump entende raison. Il est persuadé que les tarifs sont la meilleure chose au monde. Puis d'ailleurs, c'est complètement fou, parce que c'est effectivement les Américains qui payent les tarifs.
Oui. Donc l'inflation augmente là-bas, la création d'emplois est très faible.
Exactement. Puis il y a le fameux phénomène dont je parle, le front-loading, qui fait que les Américains ont acheté énormément de stock au Canada avant les tarifs pour être capable de produire en masse pendant 9 mois. Puis là, ils arrivent à la fin de leur stock. Mm-hmm. Ce qui fait que les Américains se retrouvent avec maintenant des produits à payer avec le 40-50% de douane, parfois comme on le voit dans l'acier, l'aluminium et le bois. Et parfois, ce qui évidemment augmente le coût exponentiellement. Mais en plus, comme ils ont produit beaucoup en avance, puis que les perspectives sont peut-être moins bonnes aussi, dans ce temps-là, peut-être qu'ils coupent dans les emplois. Puis on voit d'ailleurs que les job reports qui sortent tous les mois, lorsqu'il n'y a pas de shutdown aux États-Unis, puis il y en aura cette semaine qui arrive, malheureusement, on voit que l'emploi ralentit et malheureusement, ils sont toujours en dessous des prévisions. Donc, c'est vraiment en ce moment que les tarifs commencent à faire mal à Trump. Mais il ne va pas changer d'avis. Ce qui vient de sortir comme tweet, là, il y a peut-être une heure sur l'Inde et l'Union européenne, l'accord commercial qui vient d'être signé, c'est lunaire. Il les traite de bébé lala. Ouais. Puis de... Donc, malheureusement, je pense qu'il ne changera pas. En revanche, c'est un peu toujours le même modus operandi. Puis, comme je l'ai dit, les marchés finissent par lui faire entendre raison. Alors, on va espérer qu'il ne nous amène pas dans une nouvelle crise financière mondiale, mais c'est pas fort.
Pierre Graff, merci beaucoup de nous éclairer, parce qu'on a d'un côté les Américains qui disent quelque chose, de l'autre côté le Canada. Ça nous prend justement des analystes en plein centre comme toi pour nous éclairer là-dessus. Merci beaucoup, Pierre Graff, analyste économique. Dans un instant, Boulevard 102 à l'émission On en jase, Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, qui a donné son appui à Christine Fréchette ce matin, sera avec nous via téléphone. Vous avez des questions pour le ministre de l'Immigration? 418-971-1021. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102. On en jase.